c'était Faits divers de IAM. Vous écoutez toujours le flux du réseau Radio Campus France. On est en direct du Palais des Congrès de Tours où se déroulent les Assises du journalisme et on est ensemble pour une heure et demie.
Les Assises internationales du journalisme de Tours 2025. Faits divers à la une avec les radios du réseau Radio Campus France.
Tout de suite, nous allons aborder le premier sujet de cette émission dédiée au journalisme. Et pour ça, nous allons faire un petit retour en arrière qui va nous emmener il y a 20 ans. Rappelez-vous, en 2005, c'était les émeutes de Clichy-sous-Bois en réponse au décès de Ziad Benah et Bouna Traoré, deux adolescents morts électrocutés alors qu'ils étaient poursuivis par la police. On est maintenant en 2025 et on va se demander comment a évolué le traitement médiatique des quartiers populaires, donc 20 ans après Clichy. Pour ça, on reçoit Erwan Ruthier et Anissa Rahami. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Mais avant, on va écouter Natacha de Radio Campus Brest qui va nous faire un petit rappel du contexte de ces émeutes.
En 2005, la France vit une crise majeure après la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois, Ziad et Bouna. Deux adolescents électrocutés dans un transformateur EDF en cherchant à fuir un contrôle de police. En réaction à ces morts, des violences éclatent dès la nuit suivante à Clichy-sous-Bois et dans la commune voisine de Montfermeil. Ce drame, c'est aussi un chaos et un deuil médiatique et politique. Quelques minutes qui se répètent sous le même prisme, sous le même ton, sous les mêmes regards de ceux qui pleurent. C'est quelques jours plus tard que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, se rend dans ces terribles banlieues parisiennes auprès des habitants et déclare « Vous en avez marre de cette bande de racailles, eh bien on va vous en débarrasser ». Rhétorique politique, brutale et sécuritaire, elle façonne le traitement et l'agenda médiatique. Peu de médias donnent la parole aux habitants. Le Bondi-Blog surgit alors en 2005, suite aux émeutes, comme premier pure player français. Il défend la liberté des personnes des banlieues et ancre leur légitimité. Jusqu'en 2023, où la mort du tout jeune Naël à Nanterre, tué par la police, déclenche à nouveau une vague de violence dans les quartiers populaires. Un ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui en 2023, lors des émeutes dans les banlieues, n'hésite pas à apporter son soutien sans réserve aux policiers impliqués dans la mort de Naël. Quant au discours qu'il tient suite aux émeutes et à la répression sur les jeunes des banlieues, il n'a pas fait mieux que Nicolas Sarkozy en 2005 en qualifiant les jeunes de racailles. Le phénomène est le même et ses faits sont traités par les médias traditionnels de manière diverse. Le parallèle entre 2005 et 2023 est frappant et se concentre sur la rébellion. Une grande partie de la couverture médiatique reste centrée sur le spectacle des émeutes. Une fois de plus, et surtout permet une récupération de l'extrême droite illustrée par BFM TV. La violence est mise en avant, mais les causes sociales restent en retrait. Et les jeunes des quartiers populaires continuent à se retrouver dans des cases toutes faites, délinquants, fauteurs de troubles, victimes d'une société qu'ils ne comprennent pas. Les réseaux sociaux exposent aux yeux de tous la vidéo témoin de l'acte du policier qui bouleverse la version de l'institution. Et les rôles s'inversent. Les deux adolescents à Clichy en 2005 et les quartiers n'ont pas eu la chance d'avoir de telles preuves, seulement des mots. Le Bondi Blog a permis de créer un espace de contre-discours qui sort de la violence qu'on va imposer dans le paysage médiatique. Les journalistes et contributeurs du blog ne cherchent pas à justifier les violences, mais à comprendre les causes sous-jacentes, telles que la discrimination, la précarité et l'isolement social. Il est devenu un témoignage important de la volonté des jeunes de raconter leur réalité, loin des clichés véhiculés par les médias traditionnels. Dans la même période que Naël et après l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes propose une couverture représentative des quartiers populaires. La sensibilisation des journalistes vient déconstruire les stéréotypes et parler du drame et des violences qui se produisent en donnant la parole au quartier. AJAR et le Bondi Blog sont des voies alternatives qui exposent les récits médiatiques loin des clichés de violence. L'avenir, c'est de donner aux banlieues une représentation plus nuancée, loin des stéréotypes. C'est d'apporter un contre-discours aux agressions politiques violentes dirigées sur les habitants. Le regard doit changer, apporter un vrai pluralisme et s'éloigner des raccourcis en prenant le temps d'écouter. Un court appel pour dire qu'au cours de l'année 2005, ils étaient 6 à mourir sous les coups de la police, dont 3 pendant les émeutes. Et en 2024, qui parle de ce bilan? 31 personnes sont mortes suite à des tirs policiers, dont 1 par pistolet à impulsion électrique, 30 par arme à feu, dont 7 sont morts lors des révoltes en Kanaky. Ces dernières années, et particulièrement en 2024, le bilan s'alourdit vite et brutalement dans une impunité glaçante. Quelle tribune finalement médiatique aujourd'hui pour ces victimes et quel traitement est adopté par les médias? Nous allons en parler plus explicitement avec nos invités.
Merci Natacha pour cette mise en contexte et pour ce rappel sur les émeutes de 2005. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on va se pencher sur le traitement médiatique des quartiers populaires et comment il a évolué, donc 20 ans après Clichy. Et pour parler, nous avons deux invités en plateau. Anissa Rami, vous êtes journaliste chez Bouscapé, mais aussi réalisatrice de podcasts. Et vous êtes également membre de l'association des journalistes antiracistes et racisés, donc l'AJAR. Bonjour.
Bonjour.
Et Erwan Ruti, vous êtes l'ancien directeur du Media Lab 93, un incubateur à destination des jeunes créatifs et des médias de Seine-Saint-Denis, et auteur d'une histoire des banlieues françaises publiée aux éditions Les Pérégrines. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Radio Campus France.
Merci.
Et pour mener cet entretien, il y a Manon de Radio Campus Toulouse et Antonin de Radio Campus Montpellier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Hello, bonjour.
Les micros sont à vous.
Eh ben... Ok, allez, bah, je commence la première question. Est-ce que déjà, vous pouvez un peu vous présenter dans un premier temps, au moment aussi du contexte de Clichy, c'est-à-dire comment vous avez vécu, vous, journalistiquement, les émeutes de Clichy, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Voilà.
Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Anissa Rami. Je suis journaliste indépendante, donc comme on l'a dit. Je travaille sur les questions de société, politique et rap. Donc, du coup, c'est un peu un mélange de tout ça. J'ai 28 ans. Donc, du coup, j'étais vraiment petite en 2005. Je sais pas, je peux pas forcément parler de comment je l'ai vécu à l'époque. J'ai pas forcément de souvenirs. Et en plus, moi, je viens de Normandie, donc du coup, je viens pas de quartier populaire. Donc voilà, c'était pas forcément un vécu que je pouvais avoir à cette époque-là, sur journalistiquement parlant. Voilà, et du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis membre de l'AJAR, Association des journalistes antiracistes et racisés. Et par contre, pour le coup, nous, ces questions de traitement médiatique des biais, pour étudier les biais racistes et rappeler que dans le journalisme, on a tous et toutes des biais racistes et que du coup, on doit travailler là-dessus. Les quartiers populaires et les violences policières, c'est vraiment au cœur de notre travail.
Je suis beaucoup plus vieux. J'ai des cheveux blancs, pour ceux qui ne me voient pas. J'ai 53 ans, j'habite à Bordeaux maintenant, mais à l'époque, je travaillais déjà depuis 7 ou 8 ans en banlieue, sur la question des banlieues, dans des médias implantés dans des banlieues, montés par des jeunes des quartiers, essentiellement. Exactement en 2005, pour le coup, j'avais une double activité. J'étais à la fois nouvellement directeur d'une agence de presse qui s'appelait Ressources Urbaines, que je venais de créer 2 mois plus tôt, spécialisée sur les banlieues justement, dans laquelle on a fait converger une vingtaine de gars et de nanas qu'on connaissait, qui étaient très souvent implantés qui habitaient pour la plupart dans les quartiers, et qui étaient plus ou moins galériens et plus ou moins journalistes selon les cas, et qui produisaient, on s'était dit qu'on allait produire des contenus journalistiques pour les grands médias, ou pour les médias mainstream, pour la presse locale, etc., à partir de ces quartiers. Donc c'est une initiative que je faisais suite à pas mal d'expériences déjà dans les quartiers, dans des médias qu'on avait montés aussi, mensuels, puis après trimestriels, diffusés en kiosque et tout ça, sur les quartiers aussi. Et j'avais une autre activité que je commençais tout juste aussi, parce qu'au début, quand on lance une boîte, en général, quand on est assez jeune, c'est un peu rude, surtout dans les médias, et surtout quand on ne veut parler que des banlieues. Donc fatalement, le modèle économique est fragile, on va dire, pour manier la litote. Et du coup, je travaillais en même temps pour une mairie de l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, toute petite mairie. Je travaillais beaucoup à Saint-Denis aussi, juste à côté, en Seine-Saint-Denis aussi. Et voilà, et les émeutes se passent assez peu à Saint-Denis et assez peu à l'île Saint-Denis, voire quasiment pas du tout, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on voit très clairement les choses partir à Clichy, en particulier de Clichy, et aller ailleurs. Et donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut à la fois traiter, finalement, comme nous on était un peu dans la logique d'éducation populaire depuis le début, comment est-ce que nous, d'abord, on peut intervenir pour essayer de comprendre et de faire en sorte que les choses ne s'embrasent pas trop là où on est, et puis ensuite aussi d'essayer de comprendre le phénomène et qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que alors qu'au début il ne s'est pas passé grand chose à la mort de Zied et de Bena, Zied Bena et de Bouna Traoré, c'est que quelques jours plus tard que les événements ont pris une ampleur certaine. Donc voilà, on verra tout ça au jour le jour. C'est une expérience assez riche.
à cette période justement, mais de manière plus large, à quoi ressemble le traitement médiatique, excusez-moi, plus large en fait, de Clichy, des émeutes et de manière encore plus large du coup, des quartiers populaires.
Moi je dirais, bon, je pourrais un peu revenir sur la question précédente mais qui va aussi peut-être répondre à ta question, c'est que du coup moi comment au final j'ai eu accès, compris ce qui se passait, c'est du coup à travers le rap et dans tous les textes que j'écoutais depuis petite, les violences policières, ce qui se passe dans les quartiers populaires a toujours été décrit et donc du coup pour Ziad Bena et Bouna Traoré c'est pareil en fait, c'est des rêves qui sont très souvent dans les textes. Et donc quand je suis arrivée à la fac, je militais du coup pour beaucoup contre les violences policières. Et donc c'est aussi comme ça que moi j'ai pu rentrer dans qu'est-ce qui se passe dans les quartiers populaires, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes, comment ils sont stigmatisés, comment ils sont aussi criminalisés dans le traitement du médiatique justement. Et j'ai commencé à être journaliste au Bondi Blog qui a été créé du coup en 2005 après les révoltes pour Ziad Bena et Bouna Traoré. Et donc du coup voilà, c'est quand même comme ça que s'est fait mon travail, enfin mes débuts dans le journalisme. Et donc du coup voilà, les violences policières ont été une manière aussi de me politiser, même s'il y avait aussi beaucoup d'autres questions, le féminisme, etc. Mais du coup en fait ce qu'on dit tout à l'heure, c'est qu'on les réflexes médiatiques seront quand même toujours les mêmes. On en a un peu parlé à la conférence, mais le fait de contacter, d'avoir des sources policières en premier, ça fait que les premières dépêches, les premiers articles sont basés sur des sources policières qui, du coup, et qui sont pas recoupées en premier avec aussi les propos des personnes qui peuvent vivre dans le quartier populaire ou qui sont atteints par la violence policière, c'est-à-dire les parents, les proches, etc. Donc ça quand même, c'est un premier biais qui va être repris ensuite par beaucoup de médias. Donc criminalisation des victimes, ensuite criminalisation des quartiers, criminalisation des révoltes qui vont souvent suivre. Donc voilà, c'est quand même les premières choses. Et qu'on a de Ziad et Bouna jusqu'à Naël, on les a retrouvés tout au long de toutes les personnes qui ont été tuées par la police.
Mais on va y revenir d'ailleurs à ce traitement médiatique. D'abord, moi, on voulait vous poser comme question, en 20 ans, comment a évolué le traitement médiatique des banlieues? Est-ce qu'on peut encore utiliser justement le terme banlieue, selon vous?
Bah, du coup, c'est marrant parce qu'on a débatté juste avant. Moi, je préférais le mot quartier populaire parce que justement, je trouve que banlieue, ça a été tellement stigmatisé que du coup, quand on voit banlieue, on voit des problèmes en fait directement. Alors que quartier populaire, je pense que j'ai l'impression que ça a été un peu utilisé pour remettre de la dignité aux personnes qui vivent dans ces quartiers plutôt que de les appeler par une appellation comme ça, finalement juste de territoire. Mais en même temps, ce que tu me dis tout à l'heure m'a assez convaincu, donc je vais peut-être te laisser parler sur le côté banlieue, mais en tout cas, le côté banlieue, quartier populaire de banlieue peut être intéressant.
Et justement, le traitement médiatique des banlieues, comment ça a évolué en 20 ans, des émeutes de Clichy aux émeutes de Naël?
Ce qu'on dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut avoir évolué, moi du coup comme je disais, je suis à l'AJAR et le but c'est justement de faire évoluer. À l'AJAR, ça a été créé en mars 2023. Avant la mort de Naël. Mais du coup, ça fait partie de nos priorités de pouvoir à la fois former les journalistes dans les écoles pour justement ne plus avoir ces biais racistes qui participent à la stigmatisation des quartiers populaires, et à la fois de pouvoir critiquer les médias qui continuent à avoir ces biais. Et comme on le disait, les médias... même de gauche ou de centre, etc., ont ces biais parce que les journalistes sont majoritairement blancs et ne viennent pas de quartiers populaires. Donc ce qui fait qu'ils arrivent avec leurs biais, leurs propres expériences, leurs propres vécus. Et donc ça participe aussi ça fait partie de ce mauvais traitement.
Et du coup, peut-être Erwan, sur le mot banlieue ou quartier populaire, tu veux t'exprimer là-dessus?
Surtout sur le mot banlieue, nous, on l'utilisait volontairement. Enfin, la plupart des gens avec lesquels je travaillais dans ces différents médias, même si on n'était pas tous d'accord, c'était de dire ce mot-là, c'est un mot obus. Il y a des gens aujourd'hui chez les écolos qui disent il faut utiliser le mot décroissance parce que c'est un mot obus qui a une capacité percutive à ébranler un peu les imaginaires. Je reconnais que, surtout en temps d'hégémonie d'extrême droite, le mot banlieue il a pris un sens très négatif. Il avait déjà un sens négatif depuis un certain temps, mais ça s'est renforcé ces derniers temps. Cela dit, on s'était dit pendant longtemps que peut-être ce terme pouvait être utilisé pour s'imposer dans le débat et pour prendre une place dans la société française, pour dire voilà, il y a une culture particulière, il y a quelque chose de très spécifique socialement qui se passe sur ces territoires-là, géographiquement aussi, et donc il faut, avec ces spécificités-là, s'imposer dans le débat et ne pas dire que grosso modo on est comme tous les quartiers populaires. Parce qu'on n'est pas comme tous les quartiers populaires, j'en suis intimement convaincu. Mais ça se débat, le débat n'est pas tranché, il ne le sera peut-être jamais, hein, mais j'estime que par exemple, des quartiers populaires, vous avez dans le nord de la France, dans des anciennes cités ouvrières, minières, où il y a des quartiers populaires qui sont très populaires, qui vivent des réalités spécifiques, très spécifiques. Vous allez au quartier Arnaud-Bernard à Toulouse, vous allez à la Guillotière à Lyon, vous allez à Noailles à Marseille, vous allez à Belleville à Paris, etc., etc., Saint-Michel à Bordeaux où j'habite, etc. Vous êtes en plein centre-ville, ce sont aussi des quartiers populaires. Ils ne vivent une réalité qui n'a absolument rien à voir avec des gens qui habitent dans des grands ensembles. À la Savine à Marseille, ou à Vénissieux, ou à Senon, etc., à Bordeaux. Et au Mirail, à Toulouse. Ce sont deux réalités sociales et culturelles très différentes. Le phénomène de ghettoisation est beaucoup plus dur, beaucoup plus radical quand on est en périphérie. Le phénomène de ghettoisation culturelle dans lequel on va mettre des gens spécifiquement sur ces quartiers-là, ça a été construit comme ça à La Mosson, à Montpellier. Vous avez des immeubles entiers constitués de gens qui viennent du même bled, de même ville au Maroc. Donc où il y a eu une construction dans les années 70, au moment où il y a eu une aspiration de la main-d'œuvre immigrée en France, où très clairement les patrons allaient chercher, aidés par l'État, allaient chercher dans tel village et faisaient venir tout le village, ou un ensemble d'hommes d'abord, du village, et les mettait dans les mêmes immeubles. Et donc ça construit une réalité sociale très particulière que vous n'avez pas du tout quand vous êtes dans un centre-ville ou que vous n'avez pas du tout quand vous êtes dans un coron dans le nord-est ou l'est de la France. Donc, voilà. Après, je comprends tout à fait qu'on veuille utiliser le terme quartier populaire parce que effectivement ça a un sens social aussi que moi finalement je trouve extrêmement louable et fort de se dire, on n'oublie pas aussi le sens social qu'il y a, qu'on oublie trop avec le mot banlieue. Mais je reconnais, pour terminer, que cette volonté d'utiliser ce mot banlieue comme étant un obus est un échec. Voilà. C'est un échec. Et aujourd'hui, au vu de l'extrême droite, là où on en est, il faut se remettre en question. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle effectivement l'histoire des banlieues françaises et là ça se terminait par ça. Ce parcours-là d'une 20-30 ans de tentative depuis la marche pour l'égalité d'une certaine manière de s'imposer dans le débat avec une spécificité sociale, culturelle et géographique aurait pu fonctionner. En 2005, on pensait que ça pouvait fonctionner parce que tout le monde s'était intéressé à ces quartiers, d'abord en mal, mais parfois aussi en bien. Et je reviens sur la question du traitement médiatique. En 2005, y compris dans la presse grand public, il y a des gens qui très rapidement vont dire de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de l'époque, non, ces gamins ne sont pas des voleurs, contrairement à ce que vous dites, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ces gamins ne sont pas des voleurs, ils rentrent à un match de foot, etc. Et donc, ils vont tout de suite contredire la vérité officielle telle qu'elle est proposée par le ministère de l'Intérieur. Très rapidement, très très rapidement. Et après, il y a des armadas de sociologues, de journalistes, de tout ce que vous voulez, qui rappliquent et qui font un taf, un vrai taf, et qui font un vrai taf vraiment intéressant. Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure dans le débat, une émeute de papier, comme c'est dit par le sociologue Gérard Mauger de l'époque, sociologue du passé, quasiment du PCF, qui raconte comment tout ça s'est passé. Il dit qu'il y a eu énormément de productions très intéressantes, mais les échecs politiques déjà.
On arrive pratiquement à la fin, en plus, je te laisse.
J'avais quand même une question pour faire lien un petit peu avec le thème de cette année, du coup, des assises du journalisme, à savoir le fait divers. Est-ce qu'on peut dire que les quartiers populaires sont trop souvent, peut-être tout le temps, en fait, traités via le format du fait divers?
Vous avez deux minutes.
En très très court.
En deux minutes. De fait, pendant très longtemps, y compris par Le Parisien, qui avait 120 journalistes dédiés aux banlieues parisiennes pendant longtemps, c'est beaucoup moins maintenant, il y avait un traitement fait diversier, effectivement, où grosso modo, les banlieues n'apparaissaient dans l'actualité que par effraction, par le fait divers. Aujourd'hui, Enfin, après 2005, il s'est passé beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des journalistes spécialisés sur les banlieues, Luc Brunner au Monde par exemple, qui ont fait un vrai travail de fond sur le quotidien. Ce que nous, on a essayé de faire aussi dans nos médias, évidemment, on ne s'intéressait qu'au quotidien et jamais aux faits divers, pour contrebalancer. Mais je reconnais que tout ça, c'est en train de. On revient en arrière. Deux minutes.
Non, mais oui, en tout cas, je partage le constat. Et comme tu disais, il y a quand même des médias qui font le travail. On a cité le Bondi Blog. Et par exemple, le fait qu'au Bondi Blog soit des journalistes qui ne soient pas forcément professionnels, mais journalistes qui, juste comme on dit au Bondi Blog, ont vu de la lumière et sont rentrés, ça fait que du coup, il y a un autre traitement. Parce que c'est des personnes qui peuvent parfois venir de quartiers populaires et qui, du coup, en fait, connaissent des réalités que d'autres journalistes ne vont pas avoir et justement pouvoir traiter du quotidien. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est souvent dès qu'il y a une violence policière, ou dès qu'il y a une rixe, etc., que ça va être traité. Mais voilà, le but, c'est que ce soit traité comme toutes les autres personnes françaises, non françaises, etc., tous les autres lieux, que ce soit les personnes qui soient étudiées et pas les faits divers.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet entretien. On est triste, on aurait aimé que ça dure plus longtemps. On va devoir refaire des émissions. Merci beaucoup, Anissa Rami et Erwan Ruti, d'avoir été avec nous. Merci Manon et Antonin de Radio Campus Toulouse et Radio Campus Montpellier d'avoir mené ce très bel entretien. Vous êtes toujours sur Radio Campus France et on revient dans un instant après une petite pause musicale. Alors restez avec nous. Y'all been messed up, let an OG in the cypher. Eat a double lifer, pull your skirt up like Rowdy Piper. I'm the Viper, got my snipers on the rooftop. Burn them like moon rocks, send them back to the boondocks. Mind frozen, ready go, keep my rhymes scoping. A heavy dose of deadly flow, leave them wide open. I'm the master with mathematical classic shit. After you spit, I bring them back to life like Lazarus. From the streets of New York, just like G-Rap. I rally my troops out to Cali to push the G-Packs. Yeah, we that, Noble House stacking greenbacks. All you whack MCs need the Aaron Rodgers, relax. Enter the dragon, I ain't bragging. Let my mic convince you, this is murder bars. Serve them all, I will light your click up. Street reporter, chosen son, let the rifle split ya. For anyone that wanna tangle with the cypher killer. This is murder bars. I spit hard for my MCs, living large. This is murder bars. I spit rhymes out of this world, beyond the stars. This is murder bars. I spit hard for my MCs, living large. This is murder bars. I spit rhymes out of this world, beyond the stars. I commit surgery, lyric assassin on a murder spree. Send him to emergency, kill him with the urgency. Genesee, the illicit you ever seen, remember me. It's that Noble House legacy. I thought I told you in Hard Rocks, you ain't gonna wanna enter the cypher when the guard stops. I be peeping rappers out like a cyclops. Pack heat, rope deep on the crime blocks. Me and James Digger. Man, you thought you had beats, but he just made the flame bigger. I've been known to catch a body called a grave digger. You could try to bring your homie, he will lay with ya. With metaphors, I'm hella raw. You don't wanna try to go to war with the predator. Labels try to put me on, but I turn them off. Burn them all to the ground. This is murder bars. This is murder bars. I spit hard for my MCs, living large. This is murder bars. I spit rhymes out of this world, beyond the stars. This is murder bars. I spit hard for my MCs, living large. This is murder bars. I spit rhymes out of this world, beyond the stars. Gen Star, Genesee, your boy James Digger. Digger, what up, fam? Step by the boom back. Noble House, Noble House. The most incredible. You heard me. And amazing. I'm telling you, man. Hip hop forever.